J'invite à ouvrir le Cantique des Cantiques. Ce soir, nous allons méditer les versets 9 jusqu'au verset 17, donc c'est-à-dire la dernière partie du chapitre 1er. Je fais un résumé des 8 premiers versets. Le Cantique des Cantiques nous introduit tout de suite dans une situation où une jeune fille, qui est appelée la Sulamite dans cette histoire, où une jeune fille est là, happée, à la fois par son propre cœur, par ses propres désirs, mais également par la prestance du cortège royal. Elle est donc prise là de sa situation de bergère, plutôt de campagnarde. Elle est là, normalement, elle doit travailler dans la vigne, elle doit surveiller le terrain familial. Et voilà que le cortège royal passe, elle est comme éblouie, séduite, attirée au fond de son cœur. Et ce désir qui est dans son cœur fait qu'elle se laisse entraîner par le cortège royal. Et là, voilà, un petit peu surprise elle-même, dans le palais royal. Et pas n'importe où dans le palais royal. Le roi en question s'appelle Salomon. Et Salomon a cette réputation d'avoir eu de nombreuses femmes et de nombreuses concubines, ce que nous appelons de manière commune un harem. Et là, on est arrivé dans cette situation où cette jeune fille réalise qu'elle n'a rien à faire ici. Elle s'en est repentie, elle est consciente, elle sait que ses frères sont mécontents de cette situation. Et elle-même, elle se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et cette femme a une particularité, c'est que cette femme a un bien-aimé déjà. Elle aime déjà quelqu'un, qui lui, effectivement, est un berger. Donc bien loin de l'univers du palais royal, et elle ne cesse de penser à lui. Alors, avant de lire les versets 9 à 17... qui est en fait un dialogue là, parce que c'est à partir du verset 9, ce sera la première fois que Salomon prend la parole. Je vous invite à lire un passage dans le livre d'Esther. Esther au chapitre 2, pourquoi lire ce passage là? Parce que là où nous en sommes dans notre histoire du Cantique des Cantiques, nous avons quitté la Sulamite dans un contexte qui n'est pas du tout le nôtre. C'est qu'elle est dans les appartements, dans un des appartements, son appartement, c'est un des secteurs du palais royal, où habitent les filles du harem. Est-ce que vous avez déjà participé? Est-ce que vous avez déjà vécu en harem? Hein, pas trop, hein. Et en lisant ce bout de la vie d'Esther, on va comprendre l'atmosphère dans laquelle se trouve la Sulamite. Donc Esther, chapitre 2. Lisons à partir du verset 8, alors l'histoire d'Esther un peu similaire au sens où le roi là a chassé sa femme et il cherche une autre femme. Donc il a fait un édit, il a demandé à ce que toutes les femmes du royaume viennent et il en choisira une parmi celles-ci. Voilà le contexte que nous allons lire. Alors, verset 8, lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit et qu'un grand nombre de jeunes filles fut rassemblée à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Égaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi. Vous vous rappelez la maison du roi, le palais, hein, on a déjà quelques parallèles. Donc sous la surveillance d'Égaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir. Alors écoutez bien, parce que là, on comprend bien l'atmosphère. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Verset 11. Et chaque jour, Mardoché, c'est l'oncle de cette femme Esther, allait et venait dans la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus et après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elles y allaient le soir, et le lendemain matin, elles passaient dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Shashgaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elles ne retournaient plus vers le roi, à moins que le roi n'en ait le désir et qu'elles ne soient appelées par son nom. Et le verset 17, « Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur la tête et la fit reine à la place de Vassi. » Amen. Voilà quelle était l'ambiance d'un harem. Une maison particulière dans le palais. Et là, elles passaient leur temps à se soigner, à se maquiller, à se huiler, à se parfumer. Il y avait des femmes autour qui prenaient soin d'elles. Alors, je ne sais pas tout ce qu'ils pouvaient avoir. Ils avaient manucure, coiffure, massage. Voilà l'atmosphère. Et dès qu'elles avaient besoin de quelque chose, on leur donnait. Ok ? Notre jeune fille, la Sulamite, une paysanne, elle se retrouve dans cette atmosphère-là. Et c'est là qu'on arrive au verset 9. Et là, alors, on se rappelle, hein, il y a tout un jeu de scènes. Et là, le roi Salomon arrive dans cette maison des femmes. Bah oui, lui, il a droit quand même. Entre guillemets, elles lui appartiennent toutes. Hein. C'est ça un peu le rapport. Et le roi Salomon arrive. Et on lit. Il parle à la Sulamite. « À ma jument, qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare. » Ô mon ami, tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. La Sulamite s'exprime. Tandis que le roi est dans son entourage, dans son contexte, dans son milieu, mon art exhale son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de fleurs de henné des vignes d'En-Gedi. Salomon reprend la parole. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle! « Tes yeux sont des colombes. » La Sulamite répond. « Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres. Nos lambris sont des cyprès. Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées. » Amen. On va s'arrêter là ce soir. Alors Salomon là commence à comparer la Sulamite à une jument. Je ne sais pas si vous serez flatté si ce soir votre époux dit « Oh, tu es la plus belle des juments que j'ai jamais eue. » En fait, ce n'est pas tout à fait la jument en tant que telle qui est à relever, même si effectivement peut-être que il y a quand même une certaine allure dans un cheval, mais reprenons et essayons de décoder ce que Salomon dit avec leur contexte de l'époque. À ma jument qu'on appelle au char de Pharaon. Les chars de Pharaon, il faut savoir qu'à l'époque, ce sont les chars les meilleurs qui existent à l'époque. Ce sont les meilleurs chars du pays. Pardonnez-moi si on devait aujourd'hui comparer, On dirait que c'est la Lamborghini ou la Ferrari ou la Maserati, vous voyez ? Quand il parle des chars de Pharaon, il est en train de parler de son attelage, le plus précieux, le meilleur qu'il soit. Et quand il parle de ma jument, bah en fait, ce n'est pas seulement la fierté de son allure qu'il met en évidence, mais c'est plutôt le fait que on choisit la meilleure des montures pour mettre sur le meilleur des chars. Et vous avez sûrement peut-être vu des films comme ça, il n'y a pas un seul cheval sur les chars royaux, il y en a plusieurs. Et il y a, comme dans d'autres situations, quand les animaux sont attelés à plusieurs, on met devant la plus robuste, la meneuse, la meilleure. Quelque part, on pourrait dire, comme la meilleure des juments est sélectionnée pour être attelée au meilleur des chars, toi, tu es choisi devant toutes les autres filles. On se rappelle, il y a toutes les filles du harem là. Il est en train de dire, toi, je te choisis parmi toutes les autres. C'est ça qu'il veut dire. Parmi toutes les autres filles, c'est toi que je choisis pour que tu sois véritablement celle qui est mise en avant, celle qui est mise en honneur. C'est une belle distinction qu'il lui fait là. Quand il lui parle après, au verset 10, des colliers et des perles, bah oui, on a vu toutes ces femmes du harem, ont à la disposition des colliers, des perles. On sait bien que, en fait, ce n'est pas la Sulamite qui était dans sa campagne, qui est venue avec ses colliers et ses perles, elle n'avait pas ça. Mais là, on imagine, on peut visualiser que depuis qu'elle est dans le harem, on la prête, on lui met des beaux colliers, on la coiffe. Et donc Salomon la découvre là, avec des colliers, avec des perles. Et c'est là que l'on peut comprendre maintenant un peu mieux l'enthousiasme très intéressé des jeunes filles du harem. Quand elles disent « Mais c'est merveilleux, célébrons ensemble cet amour, regarde, c'est merveilleux !» Et les critiques qu'elles lui faisaient. « Mais qu'est-ce que tu veux, toi aller, cours après tes chevreaux, va dormir auprès de ton berger » Sous-entendu, « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Toi, tu veux aller dehors ? Alors que regarde le luxe dans lequel on vit, regarde le confort dans lequel on est !» Alors, il y a effectivement ce rapport très intéressé avec les filles. Et puis, verset 11, un détail qui est important. Nous te ferons des colliers d'or et des pointes d'argent. Voilà que le roi Salomon commence à lui faire des promesses. Eh ouais. Il y a des colliers, il y a des perles, mais pour toi particulièrement, on va te faire des colliers en or, en argent. Tu seras distingué par rapport aux autres. Il est en train déjà de lui faire des avances en lui promettant encore plus de richesses, plus de gloire, une meilleure situation. Ah, est-ce que vous auriez cédé ? Hein ? Je vous laisse chacun réfléchir. Et la Sulamite ne se laisse pas troubler. Malgré les compliments du roi, malgré cette atmosphère, et il commence là un dialogue. Verset 12, « Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exalte son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de fleurs de henné des vignes d'Enkedi. » Alors la Sulamite est bien là. Son corps est bien là. Mais son cœur et ses pensées sont ailleurs. Elle est toujours là, portée vers son bien-aimé. Et on va découvrir là un jeu, entre guillemets un jeu, qui s'installe entre la Sulamite et tout l'environnement qui l'entoure. Et vous allez voir que par toute la suite, la Sulamite n'arrête pas de faire des comparaisons. On va voir ça, quand par exemple ici là, il y a une atmosphère de parfum, du parfum qui vient du roi, elle va penser au parfum du bien-aimé. Quand elle est dans le palais, elle va penser à la forêt. Quand il va lui parler de sa beauté, elle va penser à la beauté du bien-aimé. Et en fait, la Sulamite, à partir de maintenant, ne va faire que ça. En fait, il faut comprendre que, essayez de vous mettre dans son esprit, que pour elle va tout faire. Elle va se servir de tout, tout va être prétexte pour se rapprocher en esprit de son bien-aimé. Vous comprenez ? Elle a tellement envie d'être auprès de son bien-aimé que dès qu'elle va avoir quelque chose, elle va le sublimer, le transformer pour en faire, pour penser à lui. Et c'est à partir de là qu'il y a tout un jeu qui se construit dans le dialogue. Alors là, en l'occurrence, elle compare le parfum du palais au parfum naturel qui embaume son bien-aimé. Elle va parler de myrrhe, elle va parler des grappes de fleurs de henné, elle va parler de la vigne. Alors que, comme on l'a lu, là il y a plein de parfums. Il y a des parfums du roi, il y a les parfums fabriqués, il y a les parfums pour plaire au corps. Et dès qu'elle pense, et dès qu'elle sent ces parfums du palais, elle imagine les parfums qui entourent son bien-aimé. Quand elle écrit au verset 13, « Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. » Il semblerait que les femmes de l'époque avaient des sortes de petits pendentifs en forme de flacon dans lequel elles mettaient quelques gouttes de nard et qui diffusaient un parfum. Et donc, ce pendentif, hop, tout de suite, elle dit « Hop, mon bien-aimé, il est là, entre mes seins. » Voilà, et tout est comme ça. Et c'est là que c'est important de réaliser que la Shulamite va s'inspirer de tout, de ce qu'elle voit, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle entend, de ce qu'elle comprend des choses. Elle va tout transformer afin de trouver là un prétexte pour se rapprocher de son bien-aimé dans son cœur. Au verset 15, quand Salomon reprend la parole et qui dit « Oh, tu es belle, mon bien-aimé, tu es belle, tes yeux sont comme des colombes !» Et oui, le roi Salomon, là, il doit voir dans les yeux de la Sulamite ses yeux qui brillent. Mais pourquoi ses yeux brillent? Elle brille parce qu'elle est en train de penser à son bien-aimé. Il brille du souvenir de ce qu'elle a vécu avec lui. Et le roi Salomon, il voit ses yeux-là qui sont un peu doux rêveurs. Ça le charme encore plus. Ça lui donne encore une nostalgie. Il a l'impression, en tant que bon séducteur, qu'il est en train de gagner un peu plus sa faveur. Mais la Sulamite, si elle a ses yeux qui sont doux rêveurs, si elle a ses yeux qui pétillent, ce n'est pas pour le roi, c'est pour son bien-aimé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle va continuer à dire. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Elle ne parle pas à Salomon. Mais elle rebondit sur la phrase que Salomon lui a dit « Tu es belle !»« Ah oui, tu es beau !»« Oh, tu sens bon !»« Oh, mon bien-aimé sent bon !» Et tout est comme ça. Et la Sulamite répond sur les propos de Salomon pour se laisser un peu plus pénétrer du souvenir de la beauté de son bien-aimé. Elle se replonge dans un moment de grâce. Et là, elle va parler de quoi ? Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont les cèdres. Nos lambris sont des cyprès. Et là, on se dit, bah, de quoi elle parle? Mais si, là aussi, il y a une comparaison. Alors, il y a toute une atmosphère de parfum. Et ça, on a vu. Elle voit, elle entend les paroles de Salomon. Tu es belle. Oh oui, tu es beau. Mais elle voit aussi des choses. Et elle est où? Elle est dans le palais. Elle est dans le palais royal, qui lui est formé de pierres. Le mobilier est certainement massif. Il y a de la tenture, il y a tout ça. Et là, elle compare. Et quelque part, quand elle parle de verdure, de cèdre, de cyprès, ben elle les compare aux colonnes de pierre qui sont dans ce palais. Elle les compare aux tentures. Elle les compare aux murs qui sont lambrisés. Des mobiliers massifs, des bijoux, des perles, de l'or, tout ça, c'est sous ses yeux. Et quand elle voit tout ça, elle pense plutôt à toute la verdure, à tous les arbres, à tout ce qu'il y a à l'extérieur et qui sont le cadre du vrai amour qu'elle a avec son berger. On verra la semaine prochaine la suite quand elle dit « Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées ». Parce que cela entraîne une autre conversation, une suite, une réponse justement de la part de Salomon. Et donc on verra ça la semaine prochaine. Quelle leçon spirituelle est-ce que nous pourrions tirer de ces quelques versets? Nous pouvons tirer trois leçons spirituelles. La première avec les versets 9 à 11, où il y a les éloges et les promesses de Salomon. Le monde nous fera toujours des propositions alléchantes. Le monde sera toujours là à essayer de nous attirer à lui avec des subtilités. Une des techniques du séducteur, c'est de nous faire croire que nous sommes quelqu'un de particulier, que nous ne sommes pas comme les autres. Le diable se servira toujours de cet orgueil dans notre cœur. Moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, j'ai reçu quelque chose de particulier. Moi, je ne suis pas comme les autres. Faisons attention. Le séducteur travaille toujours de la même manière avec notre ego, avec notre personnalité, avec notre moi. Moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je suis distingué. Moi, j'ai des trucs particuliers. Moi, j'ai des révélations. Moi, je sais mieux. Moi, faisons attention. Faisons attention. Le séducteur reste toujours le même. Il a toujours les mêmes techniques, toujours les mêmes armes. Faisons attention à ce que derrière ces flatteries, il n'y ait pas une sorte d'orgueil déguisé. Que derrière ces mises à part, ces distinctions particulières, il n'y ait pas là un piège pour nous-mêmes. Une autre technique du séducteur, du malin, de l'ennemi de notre âme, c'est de nous faire croire à ce vieux rêve de la vie plus facile. Mais si, je te donnerai de l'or, de l'argent, sois tranquille, ne t'inquiète pas du lendemain. Ça, c'est un vieux rêve, ça. Ah, plus d'efforts. Fini. Fini des bagarres, fini des conflits. Non, pas pour le chrétien. Pas pour le chrétien. Il n'y a pas de repos pour le chrétien. Il n'y a pas de repos pour le chrétien. Nous sommes dans un combat. Et dès que nous croyons que par un chemin, nous y arriverons mieux, plus facilement et sans coup, c'est que nous sommes déjà sur le terrain de celui qui veut nous amadouer et qui veut nous anesthésier de la véritable, du véritable chemin. L'ennemi de notre âme n'hésitera pas à utiliser la flatterie. Il n'hésitera pas à nous faire des promesses. Le diable fait des promesses. Même qu'il arrive à en tenir quelques-unes, bien sûr, sur le moment. Mais faisons attention que celui qui cherche à nous séduire ne le fasse pas seulement pour nous gagner à sa cause, mais à notre perte. On en a quelques-uns des exemples. Salomon lui-même, Osias, Démas, pour ne rappeler que les plus connus, qui tous se sont laissés séduits, flattés et perdus par le monde. Une autre leçon spirituelle, celle que l'on pourrait tirer des versets 12 à 17, et j'ai envie de dire comme la Sulamite, apprenons à garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Cette jeune fille Sulamite est consciente de son péché. Elle sait qu'elle a manqué le but. Elle sait qu'elle n'a pas rempli sa vocation. On m'a fait gardienne des vignes. Et je suis au palais royal. Elle est consciente qu'elle a péché. Ses frères sont irrités contre elle. Elle le sait. Elle sait qu'elle n'a rien à faire ici. Quelle est la réaction de cette femme? Elle aurait pu se jeter par terre, crier, hurler, faire l'hystérique. Elle aurait pu commencer à faire une sédition. Elle aurait pu insulter le roi. Elle aurait pu... Pas de tout ça. On la voit, je trouve même, particulièrement calme, sereine. Mais elle a adopté une autre technique. Elle s'est dit, à partir de maintenant... Je fixe tout mon cœur, toutes mes pensées sur mon bien-aimé. Elle ne cherche pas à se rebeller, elle ne cherche pas à contester, elle ne cherche pas à revendiquer, elle ne cherche pas à se justifier. Elle décide à partir de maintenant que tout ce qui peut la rapprocher de son bien-aimé, elle le fait. Et c'est ce que nous conseille Hébreux, chapitre 12, verset 2. Gardez les yeux fixés sur Jésus, celui qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Quelles que soient nos circonstances, nos difficultés, nos combats, nos incompréhensions, que de tout notre cœur, que de toutes nos pensées, que de toute notre force, sans nous laisser déstabiliser par les circonstances, nous apprenions à garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a que lui qui a la clé. Il n'y a que lui qui sera le libérateur. Il n'y a que lui qui peut changer. La Sulamite est pour nous là un excellent exemple. Et il y a de l'oppression autour d'elle, il y a du monde, il y a la pression du roi, il y a le contexte. Elle aurait vite fait de lâcher prise et tout était parti pour elle. Mais elle décide au contraire, aussi fort est la pression, aussi fort est-ce qu'elle garde son cœur, ses pensées, et elle ne cherche qu'une seule chose, à penser à son bien-aimé. La troisième leçon que nous pourrions sortir de ce passage, oh, qui est un peu moins explicite, mais je trouve qu'il y a un petit clin d'œil amusant. Au verset 17, elle dit « Les solives de nos maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès. » Alors qu'est-ce que sont les solives ? Les solives, ce ne sont pas les poutres, ce sont elles sont encore plus petites, c'est les parties de la construction encore plus petites que les poutres. Hein. Les poutres, c'est ça, d'accord ? C'est les éléments porteurs. Et bien les solives, c'est les petites qui sont entre. Et elle dit, vous là, dans le palais, vos solives à vous là, ben chez nous, c'est des cèdres. Les cèdres, ça fait partie des plus grands arbres du monde. Et elle dit, et nos lambris, vos lambris, alors le lambris, vous savez, c'est des habillages en mur, souvent faits par des petites planchettes. Dites-vous, vos lambris à vous là, chez nous, c'est des cyprès. Et quelque part, j'ai envie de nous faire aussi cette propre interrogation. Quel type de chrétien est-ce que je suis ? Est-ce que je suis un chrétien de type bois massif ? Ou est-ce que je suis un chrétien de type adlot, apparence, bois ? Si vous voulez une autre comparaison, suis-je un chrétien en or massif ? Ou suis-je un chrétien en plaqué or ? Vous voyez la différence ? Et au travers de cette comparaison, c'est un peu ça qu'elle fait, la Sulamite, par rapport au palais royal. Elle dit, oh, vous là, vous avez... c'est lambrissé, mais chez nous, il n'y a pas de lambris, nous, c'est du bois brut. Et dans notre cœur, et dans notre vie, veillons à ne pas seulement être lambrisé, à ne pas seulement avoir des apparences de chrétiens, à ne pas seulement avoir des stéréotypes, non pas seulement avoir des formes, mais que nous soyons des chrétiens dans le fond, dans la matière. Nous soyons des chrétiens de massif, de l'intérieur, du dedans. Que du dedans, il y ait déjà la vie de Christ. Alors si elle est dedans, elle sera forcément dehors. Et que le Seigneur nous apprenne également, au travers de cette petite ironie de langage de la Sulamite, à rechercher nous aussi être enracinés et pas seulement placardés. Être non pas des chrétiens superficiel, mais que notre essence soit spirituelle, que ce qui coule en nous, ce soit une vraie sève spirituelle, une vraie vie spirituelle, qu'il y ait un enracinement dans notre vie, et pas seulement une couleur, une apparence, un son. Amen.